Customers are rushing to your store. Do you have a point of sale system you can trust, or is it a real POS? You need Shopify for retail. Shopify POS is your command center for your retail store. From accepting payments to managing inventory, Shopify has everything you need to sell in person. With Shopify, you get a powerhouse selling partner that effortlessly unites your in-person and online sales into the one source of truth. Track every sale across your business in one place and know exactly what's in stock. Connect with customers in line and online. Shopify helps you drive store traffic with plug-and-play tools built for marketing campaigns from TikTok to Instagram and beyond. Get hardware that fits your business, take payments by smartphone, transform your tablet into a point-of-sale system, or use Shopify's POS Go mobile device for a battle-tested solution. Plus, Shopify's award-winning help is there to support your success every step of the way. Do retail right with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/theathletic, all lowercase. Go to shopify.com/theathletic to take your retail business to the next level today. shopify.com/theathletic. As you probably heard by now, we've teamed up with BetMGM this season. We'll be using BetMGM lines to make all of our picks, and we'll have special offers for our listeners each week. If you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC, and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager with BetMGM. Here's how it works. Download the BetMGM app and sign up using bonus code THEATHLETIC. Make your first deposit of at least $10. Place your first bet on any game and claim your voucher for a one-year subscription to The Athletic. See BetMGM.com for terms. U.S. promotional offers not available in D.C., Mississippi, New York, Nevada, Ontario, or Puerto Rico. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Available in the U.S. Call 877-8-HOPE-NY or text HOPE-NY-467-369 in New York. Call 1-800-NEXT-STEP in Arizona. 1-800-327-5050 in Massachusetts. 1-800-BETS-OFF in Iowa. 1-800-270-7117 for confidential help in Michigan. 1-800-981-0023 in Puerto Rico. First bet offer for new customers only in partnership with Kansas Crossing Casino and Hotel. Don't forget, if you haven't signed up for BetMGM yet, use bonus code THEATHLETIC and you'll get a one-year subscription to The Athletic, plus up to a $1,500 first bet offer on your first wager.
L'épisode d'aujourd'hui du Support Athlétique est une présentation de Remarkably Remote, le nouveau mini-podcast quotidien de GoToMeeting qui traite du travail à domicile, avec des informations indispensables sur la façon de rester sain d'esprit, motivé et productif à la maison. Nous sommes là pour vous aider, en cette époque où tout le monde s'ajuste au travail à distance. Si vous utilisez Alexa, ajoutez Remarkably Remote à votre flash briefing, ou alors abonnez-vous en vous rendant sur votre application de balado-diffusion préférée. Bonjour tout le monde, bienvenue au Support Athlétique, votre podcast sur le Canadien de Montréal présenté par Athlétique.com. Je suis Marc-Antoine Godin, comme toujours en compagnie de Arpin. Bonjour Arpin Basu.
Salut Marc-Antoine, comment ça va?
Ça va bien. Écoute, en ce vendredi 27 mars, toujours cloîtré chacun chez soi, on a quand même le plaisir d'avoir un invité qui lui aussi est un petit peu à l'arrêt forcé ces jours-ci. Nul autre que Marc Denis, analyste à RDS. Salut Marc, bienvenue au Support Athlétique.
Merci de votre invitation. Merci de m'accueillir, Arpin et Marc-Antoine. C'est un plaisir.
All right. Ben, écoute, c'est super le fun que tu sois avec nous. Je sais que c'est une drôle de circonstance comme tout le monde et pour tout le monde. Mais toi, comment tu vis ça en ce moment, ce qui arrive?
Ben, d'un point de vue personnel, de se retrouver en famille, vous le savez aussi, vous avez un peu le même rythme de vie que moi, de souper ensemble tous les soirs, d'être capable de se parler, d'avoir un peu de temps privilégié, ben c'est le côté positif de la chose. On a l'impression de vivre dans un film depuis deux semaines cependant à peu près, et on s'adapte, on s'ajuste, on bouge un peu en famille. Le chien n'a jamais été aussi en bonne forme que ça parce qu'on prend des marches constamment avec lui. Mais pour ce qui est du reste, c'est sûr que côté professionnel, le hockey qui est une passion pour moi aussi me manque terriblement, mais on essaie de s'occuper un temps soit peu, que ce soit avec par l'entremise du RDS.ca ou encore un petit peu de recherche historique là, au niveau des gardiens. On essaie de s'occuper un peu pour garder la main.
Mm-hmm. Oui, on est en train de faire pas mal la même chose chez nous. Puis c'est un peu ça le défi de tout le monde en ce moment. Mais on va profiter un peu de ta présence parce que même si la saison de la Ligue nationale se reprend à un moment donné, on peut s'entendre mm-hmm. un peu que les Canadiens commencent déjà à regarder la saison morte. On dirait peut-être même au fin février, ils commençaient à regarder la saison morte. Alors on voulait faire juste un petit résumé de la saison de ta perspective. Tu sais, il y avait des attentes à Montréal cette saison qui mériterait une place en série. Le gros reset, c'est un peu basé sur cette transition-là vers une équipe compétitive en attendant les jeunes. À tes yeux, est-ce que ce plan-là a pris un petit recul cette année?
Je dirais pas que le plan a pris un recul. En étant bien honnête, avec une équipe en santé, à peu près tous les observateurs, puis je m'en fais pas trop avec la démagogie, mais tu sais, de mon côté, je croyais que le Canadien faisait partie d'un groupe de 6-7 équipes qui allaient se battre pour les deux dernières places donnant accès aux séries éliminatoires. Donc, on regardait du côté des équipes repêchées. S'il y a une chose qui nous a surpris, c'est peut-être l'incapacité des Leafs de Toronto de se démarquer et de faire partie de ce top 3 dans la section Atlantique. Alors, à ce chapitre-là, ça nous a quand même donné une course qui s'est allongée, qui a peut-être permis aux Canadiens, malgré de nombreuses blessures, de demeurer dans cette course-là, quoique, comme tu le mentionnes, depuis le retour de la pause du match des étoiles, on pouvait pas mal convenir que le Canadien passait à la prochaine étape. Pour répondre directement à votre question, je crois pas que le plan de se tourner vers une jeunesse qui, pour une première fois depuis longtemps dans l'organisation du Canadien, semble florissante, avec des jeunes espoirs qui se démarquent dans leur niveau respectif, mais aussi qui semblent promis à un brillant avenir dans la Ligue nationale de hockey, au moins hockey professionnel. Je pense pas qu'on ait pris un pas de recul. Je pense pas que pour Ryan Poehling, le fait de pas avoir inscrit 3 buts à tous les matchs, ça a été un pas de recul pour lui. Peut-être même que ça aurait été la façon de réaliser les erreurs du passé. Alors, pour moi, non, il n'y a pas eu de pas de recul en ce sens, mais c'est évident que dans les attentes d'une organisation qui tente de se tourner vers la jeunesse tout en participant aux séries éliminatoires, il y a quand même une bonne dose de déception là, quand on se retrouve après bon 71 matchs là, parce que la saison est terminée ou pas, mais qu'on se retrouve avec 10 points de recul là, sur une place en série.
Ouais. Ça, c'est intéressant.
Ouais, vas-y, Arpin.
Ouais, pardon, mais je veux juste reprendre ce commentaire-là. Je trouve ça intéressant que quand tu dis au dépens de Poehling, peut-être ça leur fait réaliser les erreurs du passé. De quoi tu fais référence ou qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ben, les erreurs du passé, je veux pas... Honnêtement, je veux pas accentuer ce qui a été fait. Tu sais, des fois, faut regarder vers l'avant, mais on peut penser à l'arrivée précipitée peut-être de Jesperi Kotkaniemi dans la Ligue nationale de hockey. On peut penser au fait qu'on a amené certains jeunes joueurs comme Victor Mété peut-être aussi très tôt dans leur parcours professionnel à évoluer dans la Ligue nationale de hockey. Là où j'achète pas entièrement que c'est pas une ligue de développement, là, tu sais, la Ligue nationale de hockey, mais c'est sûr que c'est une ligue où tu dois livrer les performances, où tu dois répondre aux attentes et livrer des résultats, j'aimerais dire plus que des performances. Peut-être que ça aurait fait réaliser aux Canadiens et aux jeunes aussi que un passage, disons-le, obligé par la Ligue américaine, par le Rocket de Laval, par une équipe plus compétitive dans les rangs mineurs aussi, avec des joueurs du même âge qui sont à peu près sur le même parcours pour se trouver une place dans la Ligue nationale de hockey, ben que c'est peut-être pas une mauvaise chose. C'est ça que je voulais dire. Puis je voulais pas revenir nécessairement. Je suis pas en train de blâmer Victor Mété ou encore Jesperi Kotkaniemi. Je suis plutôt en train de parler d'un point de vue organisationnel puis d'un point de vue de ces jeunes espoirs-là. On peut inclure Poehling parce que pour moi, c'est l'exemple le plus flagrant là, qui me vient en tête. Et on espère que les leçons vont être apprises dans cette organisation-là.
Ouais. C'est intéressant que tu mentionnes les jeunes espoirs. C'est clair que je pense que ça fait l'unanimité que le Canadien a besoin de se tourner vers ces jeunes, de faire place à ce mouvement jeunesse-là. Puis avec la quantité d'espoirs qu'ils ont sous la main, jamais je croirais qu'ils seront pas en mesure de trouver, de dénicher quelques perles rares dans l'eau. Mais cela étant dit, le groupe qu'on a vu cette année à Montréal, pas ceux qui sont dans le junior ou dans les rangs collégiaux américains ou même à Laval, mais ceux qui étaient à Montréal cette année. Tu as évoqué les blessures. C'est sûr qu'il y a eu les blessures à Drouin puis Byron à la mi-novembre. Mais la vague de blessures est survenue. Je parle ici de Armia, Gallagher et les autres à leur suite. La vague de blessures est vraiment survenue à un moment où le Canadien s'était déjà un petit peu sorti lui-même du portrait des séries là, entre Noël et le jour de l'an, je dirais. Alors, ça m'amène à te pousser à te poser la question suivante. Est-ce que le groupe de joueurs qui est là en ce moment, les gars qui sont entre 24 et 30 ans, mettons, tu sais, les Gallagher, les Dano, Tatar, puis même des un petit peu plus jeunes, les Conan, etc. Jusqu'à quel point ce groupe-là, sans qu'on mette trop de pression sur les jeunes qui ne sont pas encore des joueurs d'impact dans la Ligue nationale, ou peut-être qui n'y sont pas encore, à quel point ce groupe de joueurs-là, il y a matière à amélioration, puis ils peuvent encore devenir faire de cette équipe-là une meilleure équipe à court terme?
Bon, je pense que d'avoir la réponse, Marc Bergevin nous achèterait tout de suite le podcast et il le garderait, tu sais, avoir une boule de cristal. Je pense que de répondre à cette question-là, c'est pas mal la clé du succès à court terme pour cette équipe-là, parce que si effectivement un potentiel non réalisé et qu'on atteint le plafond, ben le Canadien va devenir une équipe en série. Du moins, c'est mon opinion et elle vaut ce qu'elle vaut, parce que pour moi, on a vu un Yoel Armia avant sa blessure semblait être le marqueur de 25 buts qu'on attendait. Bon, dans le cas de Lekkonen, la production offensive n'est peut-être pas là au niveau des buts. L'effort est toujours là. Accomplir les détails, ça a son poids. Et il y a Max Domi qui n'a peut-être pas connu la saison au niveau de la production offensive non plus, où il y a un potentiel qui est non réalisé encore. Moi, je crois que dans le cas de Philippe Dano, Brandon Gallagher et Thomas Tatar, on est pas mal dans un monde de connus. C'est-à-dire qu'on sait ce que ce trio-là, ensemble ou séparé, peut nous apporter. Et quand je dis nous apporter, là, je parle en tant qu'organisation. On reconnaît que Philippe Dano est un joueur très responsable qui est bon en transition. On sait que Thomas Tatar, c'était pas un coup du hasard qu'il connaisse une bonne saison. Il a trouvé sa niche et son identité. Et on reconnaît que Brandon Gallagher, bon, ben, c'est pas compliqué, là, c'est un rythme de 30 buts encore avant une blessure et une fin abrupte à la saison. On le connaît, ce rythme-là. Donc, il y a des connus pour moi. Les inconnus se retrouvent peut-être plus du côté de Domi, du côté d'Armia. Et lorsqu'on réussit à penser à cette équipe-là comme une équipe qui reste, je veux dire, unie, entre guillemets, parce qu'en raison des blessures, là, cette année, c'est évident, c'est pas une excuse, c'est un fait. Et on y ajoute Jonathan Drouin. Parce que là, je vous parle de Jonathan Drouin, pourquoi je vous en parle de façon séparée? C'est parce que cette réponse-là, c'est celle que j'ai le plus de difficultés à vous donner. Il y a eu, une saison peut-être décevante, et dire même de l'athlète, de son personnel d'entraîneur il y a un an. Il y a eu, est-ce que ça a été un mea culpa? Est-ce que ça a été le fait de s'évaluer, de s'auto-évaluer de la bonne façon pour la première fois de sa carrière? Mais il y avait de très bonnes intentions et un bon début de saison aussi au niveau de l'engagement. Et puis là, paf, cette blessure-là à la mi-novembre. Et bon, est-ce que c'est un retour précipité? Est-ce que c'est la crainte d'un athlète de se faire mal à nouveau? Est-ce que c'est une nouvelle blessure? Ça semble être le cas aussi qu'il y en a eu une blessure qui s'est ajoutée sur le tas. Bon, peu importe. Je ne sais pas encore si ces 27 matchs-là vont avoir été une saison gaspillée pour Jonathan Drouin. Je ne l'espère pas. Parce que pour moi, il peut représenter une bonne partie de la réponse à ta question. Parce que si, effectivement, c'est Jonathan Drouin des 15 premiers matchs de la saison où tout semblait bien aller, que la production offensive suivait, qu'on se rend compte que ce n'est pas un gars peut-être d'un point par match, mais qui pourrait le devenir, mais que ça va être un gars important dans une équipe. Ben là, tout d'un coup, tu te retrouves avec une équipe qui aura sa place en série si elle demeure en santé et non pas une équipe qui va se battre. Alors, il y a effectivement beaucoup de points d'interrogation, mais je trouve quand même intéressant, puis je veux juste revenir, je sais que j'ai une longue réponse à cette question-là, puis ça sera matière à discussion, mais vous avez apporté un point qui est intéressant. Jamais je pense qu'on trouvera pas un joyau dans tous ces jeunes-là, mais n'oubliez pas une chose, tu tournes vers l'avenir tout de suite, tu donnes les rênes de ton équipe à des jeunes, et c'est pas long que tu t'appelles les Oilers d'Edmonton ou les Sabres de Buffalo, et ça, il faut faire attention aussi du côté du Canadien.
Ouais, en fait, non, ça c'est super bon. Premièrement, il y a aucune limite de temps à tes réponses, on n'a rien que du temps en ce moment. Alors,
c'est... Non, mais faut pas que je me perde non plus, parce que je suis capable d'ouvrir beaucoup de parenthèses.
Hey, écoute, on a beaucoup de temps à prendre et écouter ta réponse. Il y a beaucoup là-dedans que j'aimerais en fait revenir là-dessus. Effectivement, sur Jonathan Drouin. Moi j'ai écrit un texte cette semaine ou en tout cas à un moment donné là dans les deux dernières semaines, je me rappelle plus. Mais effectivement, ouais, le Jonathan Drouin des 15 premiers matchs est tellement un joueur que les Canadiens ont besoin de ce joueur-là, ouais. Le joueur qu'on a vu pendant les 15 premiers matchs, c'est pour ça que quand le monde dit ah, tu sais, le Canadien, tu sais, oui, ils ont eu beaucoup de blessures, mais à Pittsburgh, ils en ont eu, et Columbus, ils en ont eu, tu sais, il y a beaucoup d'équipes qui ont des blessures, c'est la réalité, et c'est vrai. Sauf que dans son cas précis à lui, c'est que ça semblait être un moment dans sa carrière où il y avait quelque chose qui a cliqué dans sa tête. Puis là, au moment que ça clique, au moment où finalement tu vois le plein potentiel de Jonathan Drouin, paf, il est parti, puis il l'a pas retrouvé. Puis je trouvais une chose que j'ai pas mentionné moi dans mon texte, mais tu sais, le dernier jour qu'on avait disponibilité avec le Canadien, c'est Jonathan Drouin était disponible, il parlait de sa saison et tout ce qui s'est passé. Puis j'avais demandé à Claude Julien à un moment donné, est-ce que tu te rappelles-tu de Jonathan Drouin des 15 premiers matchs là? Qu'est-ce que ça t'a donné comme goût, comme idée de ce que ce joueur pourrait être, là, son potentiel? Puis Claude voulait juste carrément pas répondre. Il était comme, ah, ça fait trop longtemps, je me rappelle pas. Tu sais, je me demande à quel point c'est réaliste de dire que, OK, on a vu un 15 matchs de Jonathan Drouin à son meilleur. À quel point le Canadien comme organisation peut dire, OK, peut-être ça nous donne, à quel point ils peuvent se fier sur ça pour faire leur évaluation d'un joueur que, honnêtement, a pas répondu aux attentes depuis son arrivée à Montréal. Puis là, t'as juste une petite échantillon de 15 matchs à juger, puis là, il faut prendre des décisions dans la saison morte. C'est quel Jonathan Drouin que l'organisation devrait voir dans cette situation-là?
Ben, celui que l'organisation veut voir, ça, je pense que on répond à la question en la posant. T'sais, jusqu'au 15 novembre, Jonathan Drouin était un joueur impliqué. Si on fait abstraction du match contre Washington où il a été blessé à deux reprises, là, il a été frappé par Ovechkin puis par la suite sa blessure au poignet. On parle de 15 points en 18 matchs et on parle quand même d'un joueur impliqué qui jouait par moment des matchs de 20 minutes de temps d'utilisation. C'est ce joueur-là que le Canadien veut voir. C'est un gars qui avait des tirs au but à tous les matchs. C'est un joueur qui est impliqué. Le retour de la blessure, c'est moins 10 en 8 matchs avec à peu près un tir par match. 11, 13 minutes de temps d'utilisation. Alors, tu sais, il y a même pas de comparaison. On parle, c'est des pommes et des oranges. Alors, tu sais, c'est clair que l'organisation veut voir le joueur des premiers matchs. J'ai pas de raison de croire qu'il ne peut pas l'être. Parce que, tu sais, l'épiphanie ou le moment où on réalise qui on peut être comme joueur de hockey dans la Ligue nationale de hockey. Il y a une naïveté qui vient avec la jeunesse. Il y a une confiance aussi. Mais quand on est capable de garder un aspect de confiance, mais aussi de réaliser, de s'auto-évaluer de la bonne façon, d'être assez critique, d'être assez dur sur soi-même, mais aussi de réaliser ce qu'on fait bien, normalement, on est capable de le reproduire. Il y a des moments, il va y avoir des séquences de 10 matchs où on ne trouvera pas le fond du filet. Il va y avoir des séquences de 10 matchs où tout va entrer. Mais normalement, on est capable comme joueur, comme gardien. Moi, je l'ai vécu comme gardien aussi. Tous les joueurs à toutes les positions ont un moment dans leur carrière où ils arrêtent d'être des joueurs de talent, qui comprennent les efforts pour les mettre où et comment être engagés, comment contribuer même si on marque pas de but. Moi, c'est ce que je trouvais dans le jeu de Jonathan Drouin dans les 15-20 premiers matchs de la saison jusqu'au 15 novembre. Tu sais, clairement, ce match-là à Washington, moi, je suis sorti de là. Je me rappelle très, très bien de mes commentaires. Je suis rentré dans l'autobus. Il y a un autobus média qui accompagne l'équipe en tout cas, donc on n'est pas lié avec l'équipe. Et lorsqu'on fait chacun nos affaires après le match et qu'on rentre dans l'autobus, Sergio Momesso est derrière Dan Robertson, Pierre Aude et moi. Je me rappelle d'être entré dans l'autobus et d'avoir dit, Dan n'était pas revenu encore tant qu'on avait fait, d'avoir dit, ouais, ben, this team's for real. Ils venaient de battre les Capitals de Washington à Washington dans un vrai match. Et si on se disait un match, ah, ok, oui, il y a de quoi, non, je suis pas certain, je vais dire, wow, this team's for real. On ne savait pas à ce moment-là que Paul Byron et Jonathan Drouin allaient manquer 3 mois, que le Canadien allait perdre contre Jersey le lendemain à domicile, puis que la débandade allait s'amorcer, mais c'est pour ça que je dis que la ligne, elle est parfois très mince. Et dans le cas de Jonathan Drouin, c'est un peu la même façon que j'ai de penser. Mais moi, j'ose croire que avec une entre-saison qui va peut-être être prolongée, un retour à la santé, donc parfait, on l'espère pour Jonathan Drouin, j'ose croire qu'il va être en mesure de reproduire ce qu'il a fait dans le premier mois et demi de la saison.
T'as dit un mot très important tout à l'heure, l'auto-évaluation. Je pense que c'est tellement la clé pour plusieurs athlètes. Surtout, tu sais, dans le cas de Jonathan, il a tellement longtemps évoqué ses succès dans le junior, puis il y avait une certaine image de lui, de ce qu'il avait fait dans le junior et de ce qu'il rêvait pouvoir reproduire à l'échelle de la Ligue nationale, alors que la réalité était complètement différente. Puis je pense qu'il s'est accroché à cette image-là pendant très longtemps. Puis l'été dernier, son auto-évaluation a changé, puis il a apporté des modifications qui s'imposaient dans son jeu. c'est quelque chose, c'est un défi que de nombreux joueurs doivent surmonter à un certain moment. Peut-être que Jesperi Kotkaniemi est déjà rendu là, de dire, ben là, okay, là, j'ai eu l'expérience de la Ligue nationale, qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour pouvoir être le joueur que je veux devenir et non pas simplement m'accrocher à ce que j'ai fait auparavant. Peut-être que Max Domi aussi a de l'auto-évaluation à faire. Puis je pense que c'est là où, en termes d'organisation, l'équipe doit, autant que faire se peut, apporter du soutien à ces joueurs-là qui ont besoin d'avoir une transition, qui ont besoin d'amener leur jeu à un autre niveau, puis de les assister. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui est possible ou si c'est seulement une démarche personnelle, mais est-ce que l'organisation peut les assister dans cette auto-évaluation-là pour les amener à faire d'eux des nouveaux joueurs? Parce que c'est clair dans le cas de Jonathan Drouin que si jamais, l'échantillon est petit, c'est peut-être que Claude Julien y croit pas encore ou d'autres personnes dans l'état-major de l'équipe y croient pas encore, mais ce gars-là, c'est le en ce moment probablement la meilleure possibilité de game changer qu'il y a à l'intérieur de l'organisation si on se fie seulement sur les 15 premiers matchs de sa saison. Mais c'est le travail d'auto-évaluation, à mon avis, qui rentre en ligne de compte beaucoup.
Écoute, je trouve ça le fun. J'ai pas juste 7 secondes en 2 sifflets pour m'exprimer. Fait que puis une autre chose, tu sais, je veux être clair. Là, mon champ d'expertise, c'est l'analyse hockey, c'est l'analyse de ce que je vois devant moi. Mais parce que je suis impliqué au niveau junior aussi, tu touches à, tu sais, j'irai pas aussi loin que de dire le mal d'une génération, mais l'auto-évaluation dans la génération qui suit la mienne. Là, je suis rendu dans ma quarantaine, mais dans les jeunes qui sont, je vous dirais encore, qui entrent dans la Ligue nationale, qui sont à peu près jusqu'à la mi-vingtaine, et les joueurs juniors, l'auto-évaluation, c'est un problème. On montre une vidéo à un joueur et parfois ça ne réalise même pas ou réalise qu'il a été déconnecté de la réalité parce que lui, quand il est sorti du match, il avait déjà des mots sur son téléphone cellulaire de son agent, de ses parents, de sa blonde qui lui disait qu'il avait disputé un grand match. On lui montre par la suite sur la bande vidéo et il vient à la réalisation que, attends un peu, même si j'ai eu un feedback instantané, pas nécessairement de mes entraîneurs, mais de tout le monde dans l'ère où on vit aujourd'hui, c'était peut-être pas la bonne évaluation. Se faire flatter dans le sens du poil, c'est pas toujours la meilleure des choses. Bon, fin de ma psychologie à Saint-Saëns. Si on ramène ça au hockey, l'équilibre entre être dur et exigeant sur sa performance, qui était peut-être un des problèmes à l'époque où même moi, j'ai joué dans la Ligue nationale de hockey, où on était très dur sur nous-mêmes, ben, le balancier est allé complètement de l'autre côté. Les meilleurs sont ceux qui sont en mesure de trouver cet équilibre-là, et je vous dirais que rarement ça vient tout seul. Ça prend l'expérience, il faut se tromper, il faut tomber. C'est un défi quotidien dans l'hockey junior, je présume que c'est un défi quotidien dans une organisation professionnelle également, qui doit encadrer de la bonne façon ces jeunes joueurs. Et si Jesperi Kotkaniemi ou l'aventure, l'expérience Jesperi Kotkaniemi nous a démontré quelque chose de par ses commentaires, puis on le sait, Jesperi Kotkaniemi, c'est un joueur qui n'a pas la langue dans sa poche. Je pense que quand on lit entre les lignes de ses commentaires, il s'est bien rendu compte par lui-même. Et c'est là où je trouve ça difficile à croire. Il y a beaucoup de gens qui se sont insurgés, qui se sont dit « ça n'a pas de bon sens qu'une organisation nationale ne donne pas de feedback alors que dans la Ligue américaine, il y en a ». Moi, je me dis de l'autre côté, c'est incroyable que Jesperi Kotkaniemi ne savait pas que dans la Ligue nationale de hockey, il allait avoir beaucoup moins de communication dans la Ligue américaine. Tu sais, c'est là où je dis, tu sais, je dirais pas deux poids, deux mesures, mais je veux dire que la perspective est difficile et ça prend quelqu'un qui a vécu les parcours de la Ligue américaine, de la Ligue nationale de hockey. Moi, j'ai eu la chance de le faire. Et pour avoir cette distance-là et reconnaître, quand je disais tantôt que la Ligue nationale de hockey, il y a un peu de développement, mais pas tant, c'est pour ça. Alors, c'est incroyable que les joueurs ne le savent pas non plus. Ce n'est pas la faute du Canadien de Montréal. C'est la faute de plein de choses. Puis là, si vous voulez, on pourrait élaborer autant avec la convention collective, que l'association des joueurs, que les agents, que l'horaire difficile à la Ligue nationale de hockey où tu joues deux jours, et le temps qui manque avec la disponibilité média des entraîneurs à Montréal. Tu sais, on met tout ça dans le même panier et on se rend compte que ce n'est peut-être pas juste le Canadien qui est à blâmer là-dedans, mais c'est sûr qu'il y a une planification qui doit être faite et ces joueurs-là ne doivent pas le faire seuls. Il doit y avoir un cheminement personnel quand on parle d'auto-évaluation, mais il doit y avoir un feedback, une rétroaction quasi constante pour les plus jeunes joueurs. Probablement pas mal moins entre Luke Richardson et Jeff Petrie et Shea Weber, par exemple. Parce que Shea Weber, il va être certainement le premier à le reconnaître lorsqu'il va revenir au banc. Mais quand Victor Mété revient, c'est important que Luke Richardson soit en mesure d'apporter des correctifs immédiatement.
OK, honnêtement, parce que nous, on parlait de ça hier, je pense, Marc-Antoine, parce que tout ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi dans le fond, que le fait que la génération d'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, ils ont besoin d'un encadrement différent que toi t'en avais besoin quand t'étais dans
Absolument.
La ligue ou que Claude avait besoin, Claude Julien avait besoin ou Marc Bergevin avait besoin quand il jouait dans la Ligue nationale.
Absolument.
Mais étant donné que le Canadien vire vers la jeunesse, puis le plan, c'est d'incorporer 2-3 jeunes ou 1-2 jeunes par année pendant les 3-4-5 prochaines années, à quel point est-ce que l'organisation devrait, et je sais pas la réponse, je le demande sincèrement, à quel point est-ce que le Canadien devrait prendre ça en compte et s'ajuster un peu à cette nouvelle réalité-là qui va commencer à prendre de plus en plus de place dans cette organisation-là, parce que éventuellement, à un moment donné, c'est bien beau de dire « Hey, les jeunes, tu devrais le savoir », mais s'ils le savent pas, il y a un ajustement qui devrait être fait à un certain niveau. Tu sais, comme Claude Julien, je pense qu'il y a une certaine... Il y a certaines intolérances qui démontrent envers les jeunes qui démontrent pas envers les vétérans. Tu sais, il va jamais dire par exemple, tu sais, « Yo, t'sais, Armia passe 10-12 matchs sans marquer un but, mais là, il est dans un slump. T'sais, mais Suzuki fait la même chose, puis il a frappé un mur. T'sais, c'est comme s'il y a deux. Est-ce que c'est possible de le faire? Et si oui, est-ce que le Canadien devrait s'ajuster un peu à la réalité des jeunes d'aujourd'hui?
La réponse, c'est pas un peu, c'est beaucoup. Le Canadien doit absolument s'ajuster au plus haut point. Et moi, de ce que je vois pour l'instant, c'est déjà amorcé. C'est un processus. Joël Bouchard fait partie des meilleurs communicateurs, des entraîneurs les plus exigeants, d'un gars qui a vécu pendant sa carrière de joueur professionnel, d'athlète, des hauts, des bas, des déceptions, des défaites, de l'adversité et du succès également. Et avec Daniel Jacob et Alex Burrow, je pense que ça, c'est déjà fait. Bon, maintenant, il y a des joueurs qui ne sont pas avec le Rocket de Laval. Est-ce que Claude Julien doit être mieux entouré. Quand je dis mieux entouré, est-ce qu'on doit ajouter un encadrement supplémentaire pour les jeunes, potentiellement, si on veut les faire entrer, comme tu dis, dans la formation, un ou deux à la fois, absolument. Mais maintenant, quand tu bâtis cette culture-là, c'est pour ça que c'est pas à négliger la présence de gars comme Shea Weber, de Carey Price. C'est pas à négliger non plus le fait d'avoir un équilibre avec le noyau de joueurs dont tu parlais tantôt, Marc-Antoine, les joueurs qui sont entre 24 et 30 ans, par exemple. Donc, tu dois avoir des couches, comme dans la société, de chacun de ces groupes d'âge-là. Mais c'est clair que le Canadien doit, et selon moi, a commencé déjà cet ajustement-là. Quand je parle d'une limite de ce qu'on peut faire dans la Ligue nationale de hockey, c'est là. Moi, je me souviens que quand j'ai amorcé, Mike Foligno était un des entraîneurs adjoints avec le Colorado, était mon entraîneur-chef pendant un an par la suite à Hershey. Il n'y en avait pas de journée de congé. Les journées de congé, c'était des jours optionnels où nous, les jeunes, on se retrouvait à l'aréna et là, il y avait du coaching particulier juste pour les jeunes parce qu'on se retrouvait 5-6 des gars un peu plus jeunes. Dans la Ligue américaine, c'était à peu près pareil, sauf quand j'étais le gardien de but partant, je prenais certaines de ces options-là. Mmh. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Quand c'est une journée de congé, c'est obligatoire. Pour le jeune qui a 19 ans autant, il n'a pas le droit de mettre les pieds dans l'amphithéâtre. Il y a des limites de ce qu'on peut faire dans la Ligue nationale de hockey aussi, alors que dans la Ligue américaine, peut-être que potentiellement, le calendrier peut le permettre. C'est une ligue de fin de semaine, les déplacements se font en autobus, il y a énormément de temps mort. Il y a plusieurs choses donc qu'on peut faire. C'est pour ça que je dis que la Ligue américaine, outre le fait que tu as hâte de plus te promener en autobus puis manger ton poulet sur tes genoux, il y a aussi le fait qu'il y a du côté positif là-dedans, d'apprendre à la dure, bon, peut-être, mais quand tu es dans l'organisation du Canadien, dans la Ligue américaine, tu es traité comme un pro, mais avec les horaires et peut-être une ouverture pour le développement. Moi, je pense que le prochain pas à prendre là-dessus, Harpin, pour moi, c'est d'avoir une équipe gagnante constamment dans la Ligue américaine. Ce que le Canadien s'approche de faire avec, bon, qui ne sera jamais une course aux séries finalement, mais ce qui s'amorçait comme étant une course aux séries dans le dernier droit dans la Ligue américaine.
J'aimerais ça, avant qu'on change de thématique, je voudrais te relancer sur un dernier élément. Tu parles des jeunes qui s'apprêtent à arriver dans la Ligue américaine, qui vont aider à faire du Rocket, on le présume, une équipe gagnante. Mais, tu sais, il y a bien des partisans qui ont reproché à Marc Bergevin le fait que son plan de vouloir, d'une part, développer ses jeunes, avoir misé sur sa banque de jeunes et garder en même temps Price et Weber, faisant en sorte que l'arrimage entre les deux, entre deux générations complètement différentes, allait être serrée, allait être difficile, puis il y avait des chances de pas fonctionner. Alors, ma question serait la suivante. Dans quelle mesure tu penses que ces jeunes-là peuvent arriver et contribuer de manière suffisante à être bons assez vite et être bons suffisamment pendant que Price et Weber sont encore des gars qui contribuent à la hauteur de ce qu'on espère et de ce qu'on attend d'eux? Jusqu'à quel point cet arrimage-là, tu penses, aujourd'hui, est encore possible et encore envisageable?
Nick Suzuki est le meilleur exemple pour moi de la possibilité d'accomplir cette tâche-là. Nick Suzuki a eu un impact positif sur toute la formation. Oublions le mur, qu'il existe ou pas à la toute fin, ou la léthargie, ou peu importe. Pour moi, Nick Suzuki a eu un impact immédiat dès son arrivée, et donc c'est possible. Je crois fortement que Jake Evans, après un petit peu plus d'une centaine de matchs dans les rangs professionnels en Ligue américaine, je crois, ou à peu près 100 matchs, quasiment à pile, je pense, la dernière fois que j'avais regardé, là, je me rappelle pas, j'ai pas les statistiques devant moi, semblait prêt à amorcer donc le prochain virage. Donc, c'est tout à fait possible. Tu sais, là, je pense que Marc-Antoine, avec cette question-là, tu rejoins l'exemple très bref que j'ai juste nommé sans l'expliquer tantôt. J'ai dit, si tu te tournes entièrement vers la jeunesse, tu deviens rapidement les Oilers d'Edmonton et les Sabres de Buffalo, ben, tu sais, demander aux Oilers, si quand on a donné cette équipe-là à Connor McDavid et ses compasses, ben, quand on s'est rendu compte que les joueurs jouaient au PlayStation jusqu'au Fortnite jusqu'aux petites heures du matin, puis que les blondes venaient sur la route, puis qu'il n'y avait pas de colonne vertébrale dans cette organisation-là, que c'était plus un country club, ben, il était déjà trop tard. On en a cherché. On aurait aimé ça être en mesure d'avoir un Price ou un Weber dans l'organisation, même si ça ne veut pas dire une Coupe Stanley tout de suite. Ça veut dire une bonne façon de procéder. L'autre chose que je dirais là-dessus, c'est, encore une fois, les meilleures formations sont celles qui ont souvent l'équilibre entre les tranches de joueurs, les joueurs qui sont au début de leur carrière, les joueurs qui sont dans la fleur de l'âge et d'autres joueurs qui sont peut-être plus expérimentés, qui n'ont pas nécessairement baissé de rendement encore, mais qui ont déjà vu leur meilleur jour. Donc, l'équilibre, c'est dans tout. Je présume que c'est comme ça pour vous quand vous écrivez. C'est comme ça pour moi quand j'analyse aussi. C'est de trouver l'équilibre parfait. C'est difficile. C'est la quête de toutes les organisations. Mais pour moi, la présence... tu sais, là, c'est pas une question du culte de Carey Price et de Shea Weber, mais ce sont les vétérans d'impact qui sont ici à Montréal en ce moment, et c'est l'équipe qu'on analyse lorsque vous me posez cette question-là. Moi, je pense que leur présence, elle est plus qu'importante parce que c'est du leadership, c'est la façon de faire, c'est un cheminement, et c'est également, dans la perspective où Marc Bergevin est bien en selle, c'est également l'ADN et le visage qu'il veut voir de son organisation. Alors, pour moi, ça, c'est important. Et là, on vient de parler de deux joueurs, et peut-être que le plus important dans tout ça, qui est également le visage de l'organisation, puis on n'a pas parlé beaucoup depuis le début, c'est Brendan Gallagher. Il fait partie pour moi de ce groupe de leadership là également. Lui est un peu plus jeune, il n'a pas eu de déclin encore. La situation contractuelle et le moment dans sa carrière est peut-être différent. Là, si on parle de la fameuse fenêtre qu'on n'a jamais vu personne, c'est comme le mur. Je présume que la fenêtre est dans le mur à quelque part. J'ai pas la réponse. J'ai pas la recette secrète, mais pour moi, c'est important d'avoir ces joueurs-là. Mais oui, ça se fait de se tourner vers la jeunesse. Et si ça veut dire une centaine de matchs chez les professionnels avant de s'amener, ça peut vouloir dire ça, mais ça peut vouloir dire que des joueurs intelligents comme Nick Suzuki, qui sont allés chercher l'année supplémentaire, si on le compare à Jesperi Kotkaniemi, de hockey qui veut dire quelque chose, qui est significatif et où il y a un rôle prépondérant, ben ça peut être payant. Et quand tu as des joueurs de premier plan, comme le Canadien a finalement pour une première fois depuis longtemps dans son organisation, c'est possible que ça fonctionne.
Oui, effectivement. Et juste pour préciser, c'était 118 matchs pour Jake Evans à Laval.
Okay.
Puis,
non, t'es pas loin.
Puis effectivement, ouais. C'est ça. C'est pas mal ça. Puis c'est vrai, tu sais, dans le fond, tu sais, je me demande à quel point est-ce que le Canadien a prévu, parce que tout ce que tu dis est tout vrai. Dans le fond, ce que je retiens de ce qu'on a vu. Tu sais, de Kotkaniemi l'année passée, de Kotkaniemi cette année, de Suzuki cette année, de Poehling qui a pris peut-être qui a eu un peu de difficulté à s'ajuster à le hockey professionnel cette saison. Ouais. C'est que, tu sais, il me semble que le Canadien s'attendait à cet apprentissage-là, que ça soit un peu plus court qu'auparavant. Tu sais, on a déjà entendu Trevor Timmons parler du fait que là, de nos jours, les joueurs repêchés, on peut les prévoir avoir, de les avoir dans la Ligue nationale plus rapidement qu'avant, ce qui est vrai. Mais à quel point peux-tu prévoir ça? Parce qu'il me semble que c'est complètement imprévisible. Ça va cas par cas. C'est tous des individuels. C'est des êtres humains qui ont leur propre crainte, leur propre niveau d'habileté. Et tu prends l'exemple de Jake Evans. Et évidemment, c'est un choix de 7e ronde, là. Puis c'est un succès déjà. Le fait qu'il ait joué un match en Ligue nationale, c'est un succès. Mm-hmm. Mais, tu sais, quand tu regardes tous les joueurs qu'ils ont repêchés les dernières années, c'est ça qui me semble tellement difficile dans le cheminement que les Canadiens espèrent prendre, c'est que ils savent pas quand ces joueurs-là vont être prêts. C'est un peu ça que les deux dernières années ont démontré à un certain point, là.
Ouais, et puis, tu sais, Harpin, honnêtement, c'est la difficulté du repêchage en règle générale. Dans l'hockey junior, c'est beaucoup plus court terme, mais parfois on se trompe aussi parce qu'on pense qu'un jeune joueur va être en mesure de jouer à 16, à 17 ans, puis il est pas prêt. Tu sais, c'est très difficile à évaluer. Puis l'autre chose, c'est que chaque repêchage, une fois complété, devient relatif aux autres. Parce que là, tu rentres dans un pool de joueurs qui inclut le repêchage d'avant, le repêchage d'après, les joueurs de 5 ans plus vieux, les joueurs autonomes issus des rangs universitaires américains, les Européens, etc. Mais dans son ensemble, en anglais, on dit « in a vacuum », ben, ouais. Le joueur que tu repêches, c'est le meilleur en ce moment. Alors, c'est, tu sais, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération, mais pour reprendre ce que tu dis, je pense pas que le Canadien est le seul dans cette aventure-là d'essayer de deviner, entre guillemets, ou de prédire, là, c'est peut-être plus juste, de prédire là où un joueur va être en mesure de chausser les souliers, les patins d'un joueur de quatrième trio, puis éventuellement d'avoir un rôle au sein d'un trio principal, puis d'accomplir son rôle qu'on espère à maturité. Donc, ben écoute, c'est la science. Moi, je le dis toujours, je suis capable d'analyser un match. J'ai beaucoup de difficultés à projeter dans le futur aussi. Je serais pas un bon recruteur, je ne le crois pas. Je pense que je suis un bon analyste, mais je suis pas un bon recruteur. Donc, chacun ses spécialités aussi. Donc, c'est difficile peut-être à prédire, mais c'est aussi une cible qui est constamment en mouvement parce que chaque année, chaque repêchage, écoutez, peut-être encore plus cette saison, alors que même il y aura même pas de tournoi des moins de 18 ans pour évaluer tout le monde sur la même scène internationale. Alors, c'est une des difficultés, de pas juste du repêchage, mais du développement des joueurs, effectivement. Mais moi, je vais vous dire juste une chose là-dessus pour compléter aussi, et pour reprendre mes propos. Je suis pas en train de dire que le Canadien a tout fait bien. Ce que je suis en train de dire, c'est que le développement des joueurs est hyper important et le Canadien doit s'y mettre avec tous les outils. Moi, je pense qu'on doit améliorer le développement des habiletés. On doit améliorer le département analytique, des statistiques poussées et avancées pour être en mesure de donner plus d'outils à tous ces joueurs-là. Je pense que dans l'organisation du Canadien, c'est ça la prochaine étape.
Oui, effectivement. Puis dans le fond, en fait, je serais intéressé à savoir, dans le fond, au niveau de l'analyse statistique, je sais que toi, tu suis soit pas mal, puis tu sais, les différents anciens joueurs voient ça différemment. Je pense que toi, du côté de voir la valeur là-dedans. J'en ai parlé à plusieurs membres de l'état-major du Canadien là-dessus, puis ça, c'est pas clair, c'est un peu flou leur façon de voir ça, mais tu sais, là, il y a le nouveau, tu sais, le nouveau rondel, il va voir le player tracking qui arrive, qui était supposé arriver en série. En fait, c'est quelque chose d'autre qu'on pourrait perdre si on le voit pas. Mais à quel point tu penses-tu que ça va, le fait que les Canadiens sont, disons, pas le meilleur équipe à ce niveau-là en termes de analyse statistique et analyse de data, dans le fond. À quel point est-ce que c'est un peu inquiétant qu'ils ont pris un peu de retard là-dessus? Là?
Je sais pas à quel point c'est inquiétant. Je sais pas si c'est un retard non plus parce que je connais pas la situation dans tous les marchés de la Ligue nationale de hockey, mais ce que je sais, c'est que c'est une valeur ajoutée. Il faut la considérer en tant que telle. C'est pas une valeur qui est absolue. Certaines équipes, d'ailleurs, à qui je parle, vont me parler d'une statistique qui privilégie aux dépens d'autres et vont accorder très peu d'importance à la statistique avancée qu'on n'avait pas par le passé, qu'une autre équipe accorde énormément d'importance. Donc, tout est relatif. Moi, je pense que ça fait partie du processus décisionnel et que c'est un outil supplémentaire à l'analyse dont tu dois être en mesure de bénéficier. Ça va t'apporter des réponses. Et la ligne, on en a parlé beaucoup depuis le début de notre intervention, la ligne est tellement mince entre un joueur, une équipe ou l'autre, une situation de jeu ou l'autre, que ces analyses un peu plus poussées-là vont t'apporter. Évidemment, une analyse statistique seule ne donne rien. On doit être en mesure de l'expliquer, de l'illustrer, de voir ce que ça rapporte sur la patinoire. Mais moi, je pense, écoute, je suis pas capable de placer le Canadien en relation ou en perspective. C'est évident que si on parle de Marc Bergevin versus Carl Dubus ou John Chayka, je veux dire, ben oui, absolument. Ouais. C'est déjà là, il accorde plus d'importance, mais en même temps, je suis pas certain que Doug Armstrong a remporté une Coupe Stanley l'année passée à Saint-Louis avec un département des statistiques avancées en compagnie de Craig Berube qui était très évolué non plus. Alors, tu sais, chaque équipe aura donc son importance accordée à chacune des valeurs, mais c'est sûr qu'en 2020, pour moi, le développement des habiletés et les statistiques avancées feraient partie, tu sais, d'une équipe dirigée par Marc Denis. Ces départements-là en feraient partie intégrante.
Bon, les gars, je suis de retour. Excusez-moi, ma connexion s'est interrompue. Alors, c'est un bon segment de pouvoir parler de statistiques avancées. Effectivement, c'est pas un domaine où tu veux que ton organisation dans la situation actuelle prenne du retard. Tu sais, c'est tellement, il y a les équipes cherchent des edges partout où ils peuvent en trouver. Ça, c'est probablement un terrain qui reste encore à défricher, qui reste encore à développer. Ouais. Puis je pense que c'est pas si tu te retrouves en arrière parce que tu as des idées préconçues, des idées, des préjugés à l'égard de ça, dire ah ben là ça sera pas suffisant ce que ça peut m'apporter ou ça remplace pas ce que mon œil peut me dire, ben tu risques de rater la parade un petit peu sans que ça devienne ton ouais. Église puis que tu dises ça va être seulement là-dessus que je vais me baser, il y a un dosage à aller chercher.
Moi, j'y crois aux statistiques avancées, mais je vais mettre un peu dans le même panier et faire un amalgame, mais les fervents statistiques avancées qui disent que ça remplace le fait de voir un match, de voir un joueur évoluer, je le place dans le même panier que celui qui a les idées préconçues puis qui dit que les statistiques avancées ne donnent rien. Un est aussi pire que l'autre. Il faut qu'un soit en mesure d'appuyer ou d'expliquer là, d'une certaine manière l'autre aussi. La combinaison des deux, pour moi, ben, je crois fortement que dans un avenir très rapproché, les organisations qui vont être en mesure de manœuvrer ou de maîtriser la combinaison des deux vont être celles qui vont faire le meilleur recrutement, autant professionnel qu'amateur, et avoir justement le edge dont tu parles, Marc-Antoine.
En fait, je suis juste curieux, à quel point êtes-vous capable, à Chicoutimi, de l'utiliser dans la Ligue junior majeure du Québec? Y a-t-il des données disponibles?
Ouais, ce sont les données que nous colligeons parce que on a fait des recherches, puis quoique pas l'aspect le plus dispendieux de la gestion d'une équipe, pour une équipe junior, avec les budgets qu'on connaît, pour l'instant, c'est encore inaccessible. La bonne nouvelle, c'est que je sais que tous les matchs de hockey junior sont, pour l'instant, sont épiés. Je sais que la statistique, elle est disponible au niveau de l'intelligence et l'analyse artificielle. Pour l'instant, même au niveau des compagnies qui donnent là-dedans, ne font pas l'analyse supervisée, donc c'est-à-dire avec un être humain qui regarde chacun des matchs comme on le fait dans la Ligue nationale de hockey. Ce serait possible de faire, mais pour l'instant, c'est une question budgétaire qui nous empêche de le faire. On le regarde à chaque année à Chicoutimi. On collige et en direct, surtout à domicile lorsqu'on a les ressources humaines nécessaires pour le faire. Et par la suite, avec révision de la bande vidéo, on révise certains des aspects que nous, on aime. Par exemple, les sorties de zone en contrôle pour un duo de défenseurs. Par exemple, les rondelles récupérées derrière la dernière ligne défensive en territoire adverse lorsqu'on met l'accent sur l'échec avant. Mais on doit se concentrer pour l'instant sur certains aspects reliés à notre plan de match, reliés à la thématique de la semaine ou de la fin de semaine pour l'amélioration de notre plan de match. C'est là où on en est dans le junior en ce moment. Je présume qu'il y a des équipes qui ont les budgets nécessaires et qui doivent avoir le département d'analyse statistique nécessaire. Pour l'instant, nous, à Chicoutimi, c'est une réalité, mais elle n'est pas encore optimale.
Puisque tu mentionnes les Saguenayens, je suis curieux de savoir, en tant que ton titre précisément chez les Saguenayens, qu'est-ce que c'était? Parce que t'es pas le gouverneur.
C'est VPHockey.
VPHockey, OK.
Je suis VPHockey.
Vous avez une bonne saison. Tout ce qui est annulation des séries éliminatoires, dans votre planification, parce qu'on le sait là, dans le junior, il y a des, c'est des cycles. Tu montes une équipe, elle va être bonne, elle arrive à maturité, etc. Puis après ça, on reprend. qu'est-ce que ça représente pour vous, tout ce qui arrive avec l'annulation des séries éliminatoires et puis les répercussions de la COVID-19 sur vos activités?
Ouais. Ben, on se comptera pas de mentir. Ce n'est pas ce qui est primordial en ces temps difficiles, on va se le dire tout de suite. Mais d'un point de vue hockey junior strictement, c'est catastrophique parce que c'est 4 ans, nous autres, pleines depuis qu'on est en poste là-bas comme groupe de gestionnaire. Moi, au niveau du hockey, Yannick Jean est arrivé la saison d'avant, donc pour lui, presque 5 ans, et on était à cette planification-là depuis le tout début. Alors, d'un point de vue hockey strictement, c'est catastrophique et c'est un peu la raison pour laquelle on s'inscrivait en faux un peu avec le moment où la décision a été prise, qui pour nous était vraiment précipitée, alors que la Ligue de hockey junior majeur du Québec a perdu une belle opportunité en ce qui nous concerne d'être un leader et un avantage stratégique intéressant comparativement aux autres ligues de sport à travers la planète. Bon, la parenthèse étant terminée, la frustration d'un dirigeant peut-être qui avait une équipe qui pensait s'être dotée des éléments pour connaître un parcours intéressant, c'est sûr qu'au niveau hockey, c'est difficile de faire autrement dans le junior. On n'est pas une équipe qui croit entièrement dans les cycles. On croit qu'il faut, lorsque la situation se présente, soit d'être acheteur, soit d'être vendeur, mais avec les règlements qui sont appliqués dans la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, d'être en mesure de planifier avec un plan qui est flexible. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, ben, je dirais pas que tout est à recommencer parce que les gens qui disent qu'on avait tout vendu pour un parcours en série, ne connaissent pas bien les Saguenayens, les joueurs qui sont encore disponibles pour nous la saison prochaine. Mais ça demeure que c'est un coup qui est difficile à encaisser. Puis ça va nous donner l'opportunité de se renouveler, ça va nous donner l'opportunité d'établir un nouveau plan puis d'y aller d'une nouvelle stratégie là, du point de vue hockey. D'ailleurs, ce qu'on a déjà commencé à faire, même si on est encore en train de faire notre deuil d'une saison qui n'aura jamais lieu.
Ouais, Hendrix Lapierre, là, est-ce qu'il serait revenu au jeu? Parce que lui, j'imagine, tu sais, les gens le voyaient comme un choix de première ronde, peut-être top 15. Il n'a pas eu vraiment l'occasion de se faire valoir, évidemment, 3 commotions cérébrales quoi, en l'espace de 10 mois, quelque chose une affaire de fou. Penses-tu qu'il aurait été en mesure de pouvoir revenir au jeu puis de montrer à tout le monde qu'il est rétabli puis qu'il est le prospect que les éclaireurs attendent pour le repêchage de... Ben, j'allais dire le repêchage de juin prochain. Je veux dire, pour le repêchage d'à un moment donné.
Oui. Ben, la pandémie a causé l'annulation du rendez-vous d'Henrik Lapierre pour son retour au jeu, pour confirmer son retour au jeu. Nous, on pense qu'il est en mesure, mais on doit attendre que les instances nécessaires, tout le monde qui est consulté dans ce département-là donne des approbations. Alors, je peux pas me prononcer au niveau médical, c'est certainement pas mon champ d'expertise, mais on sait qu'à la reprise des activités, il y aura donc son rendez-vous final pour le retour au jeu. Pour ce qui est des commotions cérébrales, oui, c'est ce que nous, on avait répertorié, 3 commotions cérébrales. Maintenant, certains spécialistes dans le domaine qui ont regardé Hendrix, plusieurs spécialistes parlent de peut-être d'une blessure au cou également, donc peut-être moins de commotions. Mais bref, la chose la plus importante, c'est qu'on a pris notre temps dans la réhabilitation du jeune homme, et oui, il aurait été en mesure de reprendre l'action, on en est pas mal convaincu. C'est sûr qu'après son tournoi Linka, disons qu'il était passé sous le radar. Nous, on savait à quel point il était bon, on savait à quel point il était rempli de promesses. Certains l'ont vu venir au monde à ce tournoi-là et ont suivi son développement. C'est clair que ses blessures à répétition n'ont pas aidé, et puis peut-être que ça aurait été une opportunité pour lui, comme pour d'autres, si jamais il y avait eu du hockey cet été, de pouvoir prouver à tout le monde, alors que toutes les autres ligues avaient annulé leur... Imaginez-vous le nombre de recruteurs qui auraient scruté le hockey de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec cet été s'il y avait eu une reprise des activités, alors que toutes les autres ligues ont cessé leurs activités. Ça aurait pu être intéressant pour les jeunes de notre province, mais la Ligue d'hockey junior majeur du Québec a jugé que c'était le temps de prendre une décision qui, pour nous, était trop hâtive.
Ouais. Mais tu sais, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que, tu sais, je veux pas, c'est d'essayer de voir ça avec le verre à moitié plein, mais il y a des joueurs qui, l'année de leur repêchage, soit parce qu'ils ont été blessés ou encore qu'ils ont pas été scoutés suffisamment, on glissait un peu au repêchage. Puis si dans le cas de Lapierre, ça faisait en sorte qu'il devenait un choix de tôt en deuxième ronde au lieu d'être un choix de première ronde, ben là, il tomberait dans les filets du Canadien, puis ça devrait, ce qui probablement qu'au mois d'octobre, mois de novembre, on n'aurait pas pensé ça possible. T'sais. Alors, c'est peut-être, ça pourrait être un mal pour un bien, qui sait. Tu sais, parce que il y a peut-être plus de chances, à bout de ligne, que le Canadien repêche un Hendrix Lapierre en début de deuxième ronde que de pouvoir avoir le premier choix au repêchage universel d'aller chercher Alexis Lafrenière. Tu sais, je pense que... Alors, on verra bien.
C'est clair. Ouais. On verra bien, exactement.
En fait, on voulait terminer un peu avec toi concernant... ben, tu sais, étant donné qu'on a avec nous un gardien qui a déjà joué 77 matchs dans une saison, parler un peu de la situation avec Carey Price, puis aussi de ta relation. Tu sais, moi, j'ai couvert, tu sais, en fait, nous deux, on a couvert sa carrière au complet, quasiment. Et, tu sais, je dirais que j'ai quand même une bonne relation avec lui. Je suis capable d'aller lui parler, puis il va me répondre. Mais à chaque fois que moi, je vois que toi, tu ailles lui parler, j'imagine que la conversation est un peu différente. C'est quoi l'avantage que tu as comme être une membre des médias qui a déjà vécu dans la Ligue nationale comme un gardien avec non seulement, mais aussi à l'international et tout. Comment est-ce que tu décrirais ta relation avec Carey?
Ben, Carey, c'est un homme de peu de mots. Ça, je pense qu'on va s'entendre là-dessus.
Oui, absolument.
Tu sais, je veux dire, je pense pas qu'on peut parler d'amitié. Je pense qu'on peut parler de fraternité. C'est sûr que d'avoir foulé la même glace, alors que moi, je mettais une fin à ma carrière, lui, il amorçait la sienne. D'avoir foulé la même glace, il y a un niveau de respect, mutuel, évidemment, qui est là. Puis je pense qu'il a toujours respecté le fait que, bon, j'étais plus vieux, j'avais quand même pas mal d'expérience. Quand je me suis amené là, lui et Yaroslav Halak commençaient leur carrière. Puis c'est un peu la raison pour laquelle Julien Brisebois et Bob Guéné m'avaient amené dans l'organisation, même si j'étais clairement le troisième gardien de l'équipe. Donc on peut évidemment puiser au niveau de ces expériences-là. Je pense que il y a une analyse de la position aussi. Je parle souvent en connaissance de cause. Il y a aussi le rôle que j'ai été, oui, membre des médias, mais comme j'ai toujours dit à mes patrons, puis tu sais, je suis pas là pour avoir des scoops. Je sais pas de dénicher des histoires très souvent. Puis bon, ben c'est peut-être un peu égoïste, mais j'essaie d'aller me chercher un avantage. Je parlais tantôt d'avantage stratégique. Ben, ce sera ma prérogative lorsque j'aurai une information de la divulguer ou non, mais ce sera toujours pour moi mon objectif que l'information que j'ai, que peut-être peu d'autres ont, vont me servir pour livrer aux amateurs, aux téléspectateurs, une meilleure analyse ou une analyse qui est plus recherchée. Donc, ça a toujours été ça mon approche envers tous les joueurs. Carey n'y fait pas exception. C'est clair qu'il y a ce lien-là parce que Carey fait quand même partie... écoute, j'essaie de penser, de retourner en arrière. C'est peut-être le seul qui était là au moment où j'ai terminé ma carrière dans l'organisation du Canadien. Alors, il y a ce lien-là. Il y en a plus beaucoup. Je sais pas si ce sont mes cheveux gris, ça, ou il y en a plus beaucoup qui jouent. Il y en a plusieurs qui sont derrière le banc, comme Luke Richardson. Il y en a plusieurs qui sont des fois au deuxième étage des formations de la Ligue nationale de hockey, mais c'est quand même une communauté qui est assez serrée. Mais dans le cas de Carey, c'est là où ça se limite. En même temps, j'apprécie tout le temps quand il veut bien me donner un peu de son temps, puis d'être en mesure d'échanger. Puis parfois, ça va être aussi des paroles aussi innocentes que de parler un peu d'équipement, de la livraison de son équipement, de ce qu'il a reçu, de ce qu'il a commandé, de ce qu'il aime dans cette nouvelle paire de jambières-là. Et encore là, même si je fais pas un article sur le RDS.ca, par exemple, ben peut-être que ça va me permettre, dans le prochain match, de regarder un aspect particulier qu'il a tenté d'améliorer, puis de trouver soit la faille dans son jeu lorsqu'il accorde un but, ou encore le fait qu'il ait fait paraître un arrêt facile alors que c'est un arrêt difficile. Bref, c'est un peu comme ça que j'approche toutes les situations, que ce soit les joueurs blessés, les joueurs qui pensaient ne pas jouer, qui disputent un match. Bref, j'essaie toujours d'avoir à peu près la même approche là, dans mon travail.
En fait, juste pour ton information, du roster, tu sais, du roster de l'équipe du Canadien que dans ta dernière saison, il en reste trois joueurs qui jouent encore dans la Ligue nationale. Il y a Carey, il y a Halak, puis il y a Pacioretty que je sais pas si vous étiez à Montréal en même temps ou ouais, c'est ça. Alors c'est les seuls trois.
Écoute, puis dans le cas de Pacioretty, ce qui est quand même intéressant, c'était son premier camp d'entraînement, puis lorsque Bob Guéné et Julien Brisebois m'ont rencontré pour me dire que en fait, c'est pour me demander si je voulais aller au tournoi des recrues qui avait lieu, je pense, à l'île du Prince-Édouard à l'époque. Puis on a vite réalisé que pour un gars de 32 ans qui avait joué 10 ans en Ligue nationale de hockey, ça donnait pas grand-chose. Donc, on m'a gardé dans le giron de l'équipe. On m'a demandé immédiatement d'être co-chambreur avec Max Pacioretty, qui était le premier choix de l'équipe, qui était dans l'entourage de l'équipe. Puis, non seulement ça, mais on m'a donné la mission. Puis là, évidemment, les décisions finales n'étaient pas prises, mais on m'a donné la mission de l'encadrer lorsqu'on allait être cédé ensemble le même jour à Hamilton dans la Ligue américaine de hockey. Donc, la première fin de semaine, on était retournés ensemble. J'ai aidé Max Pacioretty et Yannick Weber à l'époque à trouver leur appartement dans le même building que moi. Les autres, ils demeuraient ensemble. Ils savaient où me trouver s'il y avait besoin de trucs pour faire à souper ou encore d'un lift pour aller à l'aréna. Bref, c'était un peu le rôle là, que j'avais lorsqu'on m'a amené dans l'organisation. Fait que dans le cas de Pacioretty, ouais, absolument. On a joué ensemble une partie de cette première année-là. Lui a été rappelé, moi aussi à différents moments, mais quand même toujours garder un bon lien avec Patch également qui connaissait une très bonne saison avec les Golden Knights.
Ouais. Effectivement, Yannick Weber, c'est un que j'ai oublié. Alors, il y en a quatre. Il y en a quatre joueurs de cette équipe-là. Ouais, c'est ça.
Mais, que ce soit comme gardien de but ou encore comme analyste, tu es à même de voir à quel point le Carey Price est soumis à une pression qui est assez unique devant le filet du Canadien comme gardien numéro un. Puis, tu sais, on parle souvent de la constance puis de la difficulté pour les joueurs de maintenir un niveau de jeu, tu sais, qui est proche de ce dont ils sont capables. Mais pour un gardien de but, à quel point c'est difficile de maintenir cette constance-là?
Ben, je sais pas si c'est plus difficile pour un gardien que pour, tu sais, le poste de gardien de but numéro un à Montréal, c'est sûr que c'est un poste qui est sous les projecteurs. Les projecteurs sont constamment braqués sur Carey Price, mais je sais pas à quel point c'est plus difficile. J'ai jamais été un à blâmer la pression pour le manque de constance ou les performances. Je pense que la santé, l'approche en dit beaucoup plus long. Maintenant, quand on regarde, même les plus grands gardiens de but n'ont pas toujours eu une constance parfaite. Il y a plusieurs gardiens de but, d'excellents gardiens de but qui ont connu des saisons un peu plus décevantes avant de rebondir, mais règle générale, ils réussissent à maintenir un niveau d'excellence. Je pense que c'est un peu ça dans le cas de Carey Price. Peut-être un peu dernièrement, qu'il a gardé son statut en raison d'une prestance ou d'une présence ou peut-être d'une réputation aussi. Je dirais pas qu'il est surfaite, mais qu'il est imposante. Sauf que c'est clair que lorsque un gardien de la trempe de Price connaît des mois où c'est plus difficile, et que c'est à Montréal par surcroît, ça fait la manchette pas mal plus que pour un autre joueur, par exemple.
Ben oui, mais justement, parce que ma question, je l'ai peut-être mal formulée, parce que c'était pas autant à propos de la pression à Montréal comme telle, mais tu sais, les périodes creuses, tu vois, là, par exemple, ça fait quoi, 3 années de suite où Price connaît vraiment des baisses de régime. Il y a toujours eu au mois de novembre, dans les trois dernières saisons. Il y a 3 ans, ça a été probablement toute la saison, mais disons qu'à chaque année, depuis 3 ans, il y a cette léthargie-là. D'où ça vient, tu penses, cette baisse de régime-là? Parce que c'est assez... On se l'explique difficilement. On peut comprendre qu'un gardien de but connaisse des difficultés à un moment donné, bon, qu'il y a une passe plus difficile. C'est pas des super-héros. Mais d'avoir ce passage à vide-là qui revient de manière cyclique, Comment tu le vois?
De plusieurs aspects, mais moi je dirais qu'à court terme, il faut en venir à la conclusion que rendu dans la trentaine, un gardien de but doit jouer de 52 à 56 matchs, un gardien de but partant, la trempe de Price, peu importe le salaire qu'il fait, si tu veux connaître du succès. Regardez ce que Boston est en mesure de faire avec Tuukka Rask, regardez ce que Dallas est en mesure de faire avec Ben Bishop. Et moi, je crois fortement que lorsque tu enlèves, par exemple, à Carey Price 10 départs, tu n'enlèveras pas 10 départs de qualité. Tu vas lui enlever une épine du pied et certains des départs plus difficiles. Donc, il n'y a plus question pour l'athlète de... J'ai employé un terme anglophone pour parce que je suis pas certain qu'il y a un équivalent en français, puis peut-être que vous l'aurez, mais il y aura plus besoin de se pacer. Il va y avoir un sentiment d'urgence un peu plus grand, peut-être un plus grand appétit. Et là, c'est un gardien de but qui en a gardé 77, tu le disais tantôt, Harpin, mais moi, je suis un gardien qui vient de l'époque où les gardiens de but numéro 1 étaient là à tous les soirs. Ouais. J'en suis venu à cette conclusion-là qu'en 2019-2020, un gardien de but dans la trentaine doit jouer 55 matchs. Je pense que ça doit être la cible ultime. Et potentiellement optimal. C'est sûr que ça ne répond pas à tous les besoins. Ça n'explique pas nécessairement que dans des situations où il est reposé, il ne connaisse pas de succès. Mais tous les gardiens vont connaître des bons matchs lorsqu'ils sont reposés. c'est-à-dire des mauvais matchs lorsqu'ils sont reposés et d'excellents matchs lorsqu'ils sont fatigués. Et parfois, ça s'explique pas. Mais règle générale, lorsque sur la ligne du temps d'une saison complète, évidemment, éventuellement d'une carrière au complet, parce que moi, je pense qu'une utilisation exagérée dans la trentaine va précipiter la chute des statistiques et précipiter la retraite aussi, ben, je pense qu'il faut absolument que tu regardes du côté d'une utilisation plus judicieuse.
Moi, je suis honnêtement, tu sais, au début de la saison, Carey Price a été demandé parce que, tu sais, l'intention de faire ce que tu es en train d'écrire était là cette saison. C'était pour ça qu'ils ont signé Keith Kincaid. C'est probablement le pire échec. Le pire échec de l'équipe au cours des deux dernières années, je dirais, en termes de décision de Marc Bergevin et son équipe de management, c'est la signature de Kincaid pour remplir ce rôle-là, de jouer une trentaine de matchs cette saison, ou 28, 27, quoi que ce soit. Mais, tu sais, je me demande, tu sais, à quel point ils seront capables de faire ça, tu sais, comme, ils ont pas de marge de manœuvre, cette équipe-là. Alors, à chaque fois que Carey Price jouait pas, si tu écoutais les tribunes téléphoniques ici à Montréal, en radio ou quoi que ce soit, c'était comme, pourquoi Price joue pas? Il gagne 10,5 millions par année. C'est notre meilleur joueur. Il devrait jouer, mais en fin de saison, tout le monde est en train de dire, bon, mais Price, il joue trop. Alors, c'est une énigme pour cette organisation-là parce que Price leur donne la meilleure chance à gagner. Ils peuvent pas prendre aucun match à la légère à cause de leur réalité. Mais en même temps, s'ils veulent avoir le meilleur gardien, ou le meilleur de Carey Price, il faut qu'il s'assoie de temps en temps. Il n'y a pas de solution à ça, je pense.
Mais tu viens de le dire, la solution, c'est de trouver un gardien de but qui, quand Carey Price revient d'un voyage ou dispute un troisième match en quatre soirs, un gardien de but qui va te donner une meilleure chance que Price de gagner. C'est pas vraiment compliqué. Je dis, c'est pas vraiment compliqué. C'est très difficile à accomplir, mais c'est comme ça. Il faut qu'à Dallas, ben pas il faut, mais à Dallas, on juge qu'Anthony Dobin, lorsqu'il est reposé, même s'il n'est même pas dans la, on peut même pas le prononcer dans la même phrase que Ben Bishop, donne une meilleure chance à Dallas de gagner dans un deuxième match. Idem avec Yaroslav Halak. Personne va donner le visiteur à Yaroslav Halak. Peut-être que Tuukka Rask est dans cette conversation-là. Sauf que, on n'y pense pas plus longtemps qu'il le faut. C'est Yaroslav Halak qui va disputer des matchs difficiles. Parfois, on regarde pas l'adversaire non plus. Je trouve que parfois, on a tendance à regarder l'adversaire. Ça a évolué. La Ligue nationale de hockey a changé énormément. La différence entre les gardiens de but numéro 1 et les auxiliaires de qualité n'est plus grande dans la Ligue nationale de hockey. Et il faut en venir. Mais tu as raison. C'est une énigme. Et je suis pas en train de dire que Claude Julien a pris la mauvaise décision une seule fois cette saison. Je suis pas en train de dire que ce match-là, Carey Price n'aurait pas dû jouer parce que le Canadien tentait tant bien que mal de se battre. Et le Canadien aussi. Faut pas l'oublier. À chaque fois qu'on les voyait battus, gagnaient 2-3 matchs et ils se reglissaient dans cette zone si dangereuse-là où il y a un mince espoir. Alors, tu sais, je suis pas en train de blâmer le Canadien là-dedans non plus.
Mais en fait, c'est drôle que tu mentionnes Hudobin, ça serait mon cible numéro 1. C'est le Canadien cette année, puis s'il se rend à l'autonomie complète, là, moi, c'est mon premier appel. Aussitôt que ça ouvre le marché des joueurs autonomes, là, le Canadien, mon premier appel serait Anton Hudobin, c'est certain.
Ben, et Hudobin est un auxiliaire tellement apprécié. C'est un gars qui, c'en est un, lui, qui accepte son rôle. Non seulement il l'accepte, je pense qu'il excelle dans ces circonstances-là. Et ce serait pas une mauvaise cible.
Ouais, ils ont en tout cas, l'équipe a tout avantage à devenir moins dépendante de Carey Price qu'il l'a été pendant longtemps, puis de pouvoir compter sur un gardien de but, auxiliaire qui serait pas, que l'équipe, excusez-moi l'anglicisme, mais que l'équipe ne second-guesserait pas en disant, ben là, l'écart entre Price et notre son auxiliaire est tellement grand que ça diminue nos chances de gagner. Il faut que cet écart-là soit rétréci pour que tu sois, que l'entraîneur soit à l'aise de dire, ben là, ce soir, je suis tout à fait correct avec le fait de reposer Carey Price parce qu'on veut bâtir quelque chose de plus solide avec lui, qui va peut-être impliquer moins de matchs, mais qui va nous permettre d'aller chercher le meilleur de ce qu'il est capable de nous donner. Tu sais. Alors,
Je pense que le terme à retenir, c'est une utilisation optimale. Ce sera jamais parfait, mais l'utilisation optimale nous montre que les meilleurs gardiens, surtout dans leur trentaine, bénéficient de jouer un peu moins souvent. Corey Crawford, peu importe, Tuukka Rask est un bon exemple. Ben Bishop en est un aussi. On parle des gardiens qui font partie de l'élite de la Ligue nationale de hockey. On a un peu le même problème à Winnipeg en ce moment. Hellebuck est un peu moins vieux que Carey Price, donc peut-être que lui, pour l'instant, va peut-être gagner Vezina d'ailleurs cette année, mais on a un peu le même problème là-bas à Winnipeg.
Dans tes top 10, pour ouais. Que tu écris sur RDS.ca. Est-ce que tu as fait un top 10 du Vézina avant l'heure? Parce que je présume que Connor Hellebuyck est loin devant les autres.
Ben, écoutez, j'ai vu votre sondage maison sur Athletic et j'ai été surpris que Hellebuyck était le vote le plus à sens unique, disons-le ainsi. Mais ouais. Oui, Hellebuyck, je lui donnerais le Vézina tout de même, peut-être pas de façon aussi claire que sur le site des Athletics, mais ce n'est certainement pas une mauvaise décision. Je pense que quand on regarde aussi les statistiques avancées qui sont disponibles maintenant, l'impact que Hellebuyck a sur sa formation, pour moi, c'est lui qui a été le meilleur cette année. Vasilevski a réussi à hausser son jeu d'un cran, mais pas au niveau de la dernière saison. Je pense que Tukarask a été excellent, mais j'accorde encore beaucoup d'importance. Même si je viens de vous parler d'une utilisation optimale, j'accorde encore beaucoup d'importance aux gardiens de but qui sont capables de jouer plus de matchs et de garder cette constance-là. L'invité surprise pour moi dans la discussion, c'est Jakob Markstrom. Markstrom a été excellent à Vancouver et même si les regards sont braqués sur Quinn Hughes et qu'on parle d'Elias Pettersson, Brock Besser et les autres comme AJT Miller maintenant, comme une attaque explosive, moi je pense que Markstrom est une des grandes raisons pour laquelle les Canucks étaient encore au cœur de la course au moment où la saison s'est abruptement arrêtée. Darcy Kemper aurait pu être dans la conversation s'il ne s'était pas blessé. Donc, il y a des gardiens qui se sont invités dans cette conversation-là. Mon dernier classement dans la Ligue nationale cette saison s'est arrêté au trois quarts de la saison en pleine ascension de Vasilevski qui gagnait un peu, je pense. Je consulte beaucoup là, d'entraîneurs de gardiens, de dépisteurs, d'entraîneurs de gardiens dans la Ligue nationale de hockey, dans les rangs juniors pour compléter mon classement, me faire une idée, me faire une tête, parce que même si je vois beaucoup de hockey, je les vois pas tous jouer. J'ai des bons contacts dans l'Ouest également. Vasilevski, je pense qu'il a bénéficié de... Tout le monde pensait qu'il avait retrouvé... son aplomb de la saison dernière. Moi, je pense que les derniers matchs, là, entre le trois quarts de la saison et le moment où ça s'est terminé, ont confirmé que c'était Hellebuyck qui devait être le numéro un. Ben Bishop aussi faisait partie des gardiens de but là, de l'élite là, pour moi. Je pense qu'au trois quarts de la saison, c'était dans l'ordre, c'était Vasilevski, Rask et Ben Bishop, mais je pense que Hellebuyck est celui qui revient au sommet là, à la fin de la saison.
Ouais. Puis... Honnêtement, Markstrom va coûter beaucoup d'argent au Canucks cet été. Je sais pas à quel point, mais je suis entièrement d'accord que oui, c'est son rôle dans leur succès un peu inattendu cette saison est un peu ignoré, un peu ailleurs qu'à Vancouver, je dirais. À Vancouver, je pense que tout le monde le réalise, mais dans le reste de la ligue, ouais. c'est vraiment quelque chose de qui reçoit pas assez d'attention de la part de l'autre monde. Puis le fait qu'il a pas de contrat pour l'année prochaine non plus, je pense pas qu'il y ait trop de monde qui réalise à quel point les Canucks sont un peu coincés là-dedans. Juste pour terminer, là, tu sais, je suis en train de regarder ton texte d'aujourd'hui, les meilleures performances des gardiens en série. Et honnêtement, c'est un exercice qui est pas évident du tout quand je regarde ta liste parce que c'est très, très difficile de différencier entre, tu sais, Jonathan Quick en 2012, Tim Thomas en 2011. Comment as-tu pu trancher entre cette liste-là? Parce que honnêtement, je pourrais pas classer cette liste-là. Ce serait trop difficile.
Ouais. Ben, c'est un exercice. On parlait d'imperfection. Tantôt, c'est un exercice qui est imparfait. Et ça, c'est vraiment le classement Marc Denis parce que c'est moi qui ai tranché. J'ai pas consulté énormément à l'extérieur, mais j'ai fait une recherche historique là, qui dure. Il y a une raison pour laquelle on écrit des textes comme ça seulement une fois par semaine, parce qu'il y a beaucoup de travail. C'est pas de l'écriture autant que la recherche. Le parcours le plus impressionnant, je l'ai mis en rubrique, c'est Terry Sawchuk en 52 qui a remporté ses 8 matchs en donnant 5 buts à l'adversaire seulement. Mais par manque justement de statistiques puis de pour être quand même équitable avec tout le monde, parce que la saison de 52, on a des statistiques, en 55, on en a moins, en 56, on en a plus. Je me suis mis donc à l'ère de l'expansion. Donc, à partir de 1967, c'est clair que les statistiques des gardiens de but sont beaucoup plus impressionnantes aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression qu'on avait oublié à quel point, au début des années 2000, il y avait eu de grandes performances des gardiens. Et il faut mettre en relation aussi ce qui a été le plus difficile pour moi, là, je le dis tout de suite, Harpin, ça a été de placer le parcours de Ron Extall dans tout ça. Parce que Ron Extall, en 1987, a à peine 900 de taux d'efficacité, donnait presque 3 buts par match. Mais là, par la suite, on se rappelle qu'il affrontait les Oilers d'Edmonton. On se rappelle tout ce qu'il a fait comme jeune recrue de 22-23 ans. Et là, on est obligé de le placer là-dedans. Kirk McLean en 94, je ne m'attendais pas de le voir dans ma liste. Moi, je me suis basé sur le fait qu'RDS remonte les séries de 2010. Je me suis rappelé ce que Jordan Bennington avait fait contre toute attente au printemps dernier. Et là, je me suis dit, mais ces deux-là ne seraient même pas dans une liste, il y en a plein. Alors bref, c'est toujours très difficile à dire.
Matt Murray.
Un côté qui est plus personnel aussi. Il y a Matt Murray qui s'est amené en relève. Mais pour moi, honnêtement, il y a un petit côté sentimental, mais Patrick Roy, on aurait pu mettre trois de ses saisons. Les prolongations 93, son troisième Conn Smythe, j'ai mis sa saison 1986. Mais pour moi, le côté émotif me ramène à Jiggy. Jean-Sébastien Giguère, en 2003, là, je vous le dis, je vous en parle, j'ai la photo en tête. J'ai la photo de fatigué, sa mitaine, qui veut rien savoir de recevoir le Conn Smythe. Pour moi, là, ça a été une performance de gardien absolument incroyable. D'ailleurs, l'année 2003 a été pour moi la meilleure année en série pour les gardiens. Lui et Martin Brodeur avaient été sublimes.
Bon, mais merci à tout le monde. Les auditeurs peuvent aller consulter le texte de Marc Denis. C'est très intéressant sur rds.ca. Puis nous, on te remercie beaucoup. Ça, c'était super intéressant de jaser
vraiment
avec toi.
Vraiment, très, très cool.
Ben, vous êtes super fin. Merci beaucoup. Je vous l'ai dit personnellement, mais je l'aurais dit avec les auditeurs aussi. J'adore le travail que l'athlétique fait. Et de le faire dans les deux langues à Montréal, c'est très apprécié aussi. Je consulte souvent votre site, puis j'invite les gens aussi à les consulter. Là, le petit top 10, là, je vous le dis, c'est pour moi, honnêtement, là, c'est un plaisir coupable personnel. Je sais que les top 10, ça fait tout le temps réagir énormément, mais allez les consulter si vous voulez, mais c'est vraiment le fun. Il y a des petites histoires là-dedans, là aussi, dans les entrefilets là, que j'ai écrits pour un peu résumer là, le parcours. Là, il y a des histoires qui sont assez intéressantes. Celle de Bernard Parent, là, je vous le dis, là, c'est ma découverte de cette année. Vous allez me dire, il est dans les années 70, Marc Réveil, mais je te dis, l'histoire de Bernard Parent, les deux saisons consécutives de 73 à 75, là, qu'il a été capable de mettre de bout à bout, là, ça a été assez impressionnant.
Lui as-tu déjà serré la main à Bernard Parent? C'est non, des mains énormes, des palettes.
Ah ouais.
C'est assez.
Et c'est pas un gardien au gabarit imposant, là.
Non. Donc, si tu veux, c'était juste, comme on dit, des grosses palettes.
Mais en passant, c'était le héros de Jerry Price. C'est le gars après qui il a copié son style, puis il essayait de jouer comme lui. Évidemment, il a pas joué comme lui. Il est pas rendu à la Ligue nationale, mais son style, disons, il essayait de copier son style autant que possible.
Ben merci Marc d'avoir été. Oui, c'est bien apprécié. Puis écoute, sois prudent, prends soin de toi, puis bonne chance à toute ta famille dans ces moments un petit peu périlleux et incertains.
Oui, restez en santé, restez en sécurité. Salut tout le monde.
All right. Bye bye.
Merci beaucoup.
All right. Tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du Sport Athlétique qui sera en fait The Athletic Support. Salut bien, Arpin.
Salut.